Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 7 octobre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En Tunisie, le président sortant a été réélu dimanche avec 89,2% des suffrages selon des sondages annoncés à la télévision nationale. Le Mozambique élit mercredi son président et son parlement dans un contexte de crise économique avec des violences djihadistes. Un an après l'attaque du Hamas en Israël, nous ferons le point sur la guerre dans la bande de Gaza et les assauts sur le Hezbollah libanais. Ici aux États-Unis, un nouvel ouragan nommé Milton, classé catégorie 5, menace le Mexique et la Floride qui se met à peine du passage de l'ouragan Helene. Et dans notre partie magazine au Togo, des activités génératrices de revenus pour des femmes qui produisent de l'huile de palme.
La production de l'huile de palme est l'activité principale de la majorité des femmes de notre localité.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Tunisie, Kais Saied s'apprête à un deuxième mandat selon des estimations publiées dimanche. Les résultats officiels devraient confirmer une victoire écrasante du président sortant. Le point avec Jean-Roger Billon.
Kais Saied a pris une option sérieuse pour une victoire haut la main dimanche avec 89,2% des suffrages selon des sondages annoncés à la télévision nationale. Un triomphe relativisé par une participation de 27,7% selon l'autorité électorale ISIEU. Seuls deux concurrents des seconds couteaux étaient autorisés à se présenter sur 17 initialement après l'élimination des rivaux les plus solides. Ses partisans sont descendus par centaines sur l'avenue principale de Tunis pour célébrer sa victoire dimanche à coups de klaxons et de chants patriotiques. Des ONG tunisiennes et étrangères ont dénoncé une commission électorale qui a perdu son indépendance. Plus d'une vingtaine d'opposants sont en prison. Ces derniers mois, des syndicalistes, avocats, chroniqueurs et des défenseurs des droits des migrants se sont aussi retrouvés derrière les barreaux.
L'ex-président sénégalais Macky Sall renonce à ses fonctions d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète en vue des législatives du 17 novembre dans son pays, a indiqué dimanche le site de la télévision nationale sénégalaise, la RTS. Monsieur Sall a été désigné tête de liste d'une coalition de l'opposition aux législatives de novembre. Le président Bassirou Diomaye, élu en mars, s'est retrouvé avec un parlement dominé par les partisans de l'ancien président. Il a annoncé sa dissolution en septembre, provoquant des législatives anticipées. Le ministre des Affaires étrangères éthiopien Taye Haske Selassie a été élu lundi par les parlementaires président du pays, un poste honorifique en remplacement de Saleh Wolk-Zewede, dont le mandat arrivait à échéance fin octobre. Taye Selassie, 68 ans, succède à Saleh Wolk-Zewede, qui était devenue en 2018 la première femme à occuper le poste de présidente de ce pays d'Afrique de l'Est. Il a ensuite prêté serment en présence du Premier ministre Abiy Ahmed avant de se voir remettre la constitution par la présidente sortante. Le Mozambique élit mercredi son prochain président et son parlement. Le candidat du parti au pouvoir, Frelimo, Daniel Chapo, est largement pressenti pour remplacer Philippe Nyusi à la présidence du pays d'Afrique du Sud-Est. Davantage avec Alexandrine Holognon.
Plus de 17 millions d'électeurs mozambicains sont appelés mercredi à voter pour leur futur président. Le président sortant Philippe Nyusi ne peut se présenter à un troisième mandat, selon les termes de la Constitution. Le Front de Libération au Mozambique, Frelimo, devrait, sauf forte surprise, se maintenir à tous les postes clés du pouvoir en dépit des critiques. Son candidat, Daniel Chapo, affronte trois autres candidats à la fonction suprême. Le Frelimo a tenu son dernier meeting hors de la ville de Maputo hier. Les municipales de 2023, très favorables au Frelimo, avaient déclenché des manifestations dans les grandes villes de ce pays lusophone. Plusieurs personnes avaient été tuées par les forces de l'ordre. Le Mozambique, très affecté par le dérèglement climatique entre cyclones destructeurs et sécheresses, reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Un projet de gaz naturel dans le nord est paralysé depuis 2021 par des violences de groupes armés djihadistes.
La vaccination contre le Mpox dans le sud de Kivu, la province la plus touchée par l'épidémie en RDC, a commencé dimanche. Le début très attendu des opérations de vaccination dans le pays d'Afrique centrale, qui concentre 90% des cas de la maladie, a été annoncé samedi avec l'injection de première dose chez les soignants de l'hôpital de Goma. Selon le ministère de la Santé, il ne s'agit pas à ce stade d'une vaccination de masse, mais de cibler les publics à risque dans les zones les plus affectées, les personnels soignants, les professionnels du sexe, les vétérinaires et les chasseurs. Le ministère de la Santé rwandais a annoncé qu'il commencerait dimanche sa campagne de vaccination contre le virus de Marburg, fièvre hémorragique similaire à Ebola, après avoir reçu 700 doses d'un vaccin à l'essai. Le bilan depuis l'annonce des infections à ce virus le 28 septembre s'élève à 12 morts, des travaux médicaux pour la plupart. 6 membres d'une patrouille de quartier dans le sud-est de l'Afrique du Sud ont été tués par balle dimanche lors d'une embuscade, a annoncé lundi la police, 10 jours après le meurtre de 18 personnes dans la même province. Le commissaire de la province du Cap Oriental a condamné une violente embuscade contre une patrouille du quartier. Le lieu de l'attaque, Tina Falls, ne se trouve qu'à une cinquantaine de kilomètres de Lusikisiki, où 18 personnes, principalement des femmes, ont été récemment tuées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un an après l'attaque Hamas en Israël, le Proche-Orient est au bord d'une conflagration totale. Joe Biden et Kamala Harris ont condamné lundi cette attaque du Hamas contre Israël. Les détails avec Nani Talani.
De l'allumage des bougies à la plantation d'arbres, le président américain et la candidate démocrate ont participé à des cérémonies marquant l'anniversaire des attaques du 7 novembre contre Israël. Beaucoup trop de civils ont beaucoup trop souffert au cours de cette année de conflit, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Le républicain Donald Trump, rival de Kamala Harris, doit aussi participer à des événements marquant cet anniversaire. Sur le terrain, la branche armée du Hamas a affirmé ce lundi que les otages israéliens sont dans une situation très difficile un an après leur enlèvement. Abu Obeida, porte-parole des brigades Ezzedine Al-Qassam, a promis une bataille d'usure longue contre Israël. Le Hezbollah libanais dit avoir visé pour la deuxième fois ce lundi les environs de Haïfa dans le nord d'Israël. L'armée israélienne a affirmé lundi avoir frappé plus de 120 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et a annoncé aussi avoir intercepté un missile tiré du Yémen. Les populations de la région sont prisonnières d'un cycle sans fin de violence, selon Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Il a réitéré son appel à un cessez-le-feu, soulignant qu'aucune solution militaire ne pourra jamais apporter un avenir au peuple palestinien et israélien.
D'Amsterdam à Tokyo, en passant par Washington ou Ankara, de nombreuses déclarations et des rassemblements avec la communauté juive, mais aussi des manifestations pro-palestiniennes ont marqué l'anniversaire de cette journée la plus meurtrière dans l'histoire de l'État hébreu. L'ouragan Milton a été élevé ce lundi en catégorie 5 par le Centre américain des ouragans. Le centre alerte sur les vents dangereux qu'il va apporter dans la péninsule du Yucatan au Mexique avant de toucher terre en Floride d'ici mercredi. Mamadou Onfa.
Milton s'est renforcé ce lundi en ouragan de catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, a annoncé le Centre américain des ouragans. Il se dirige vers la Floride, dans le sud-est des États-Unis, avec des vents pouvant aller jusqu'à 250 km par heure à partir de mardi soir ou mercredi, selon le NHC, Centre américain des ouragans. Face à la menace représentée par Milton, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a étendu dimanche à plusieurs localités l'état d'urgence déclaré la veille. 51 comtés sur 67 sont désormais concernés. Ce nouvel ouragan suscite beaucoup d'inquiétudes en Floride et dans le reste du sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage dévastateur de l'ouragan Helene, qui a fait au moins 229 morts à travers une demi-douzaine d'États du sud-est du pays et provoqué des inondations destructrices. Le président Joe Biden a appelé dimanche tous les habitants de Floride à écouter les responsables locaux et à se préparer en conséquence. 1500 soldats sont mobilisés et s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la garde nationale.
Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra vendredi avec son homologue iranien et allié Massoud Pezeshkian au cours d'un déplacement au Turkménistan. En pleine intensification de la guerre au Proche-Orient, a annoncé lundi son conseiller du Kremlin, M. Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, doit participer à un forum régional au Turkménistan, pays reclus d'Asie centrale. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Au Ghana, l'exploitation sauvage de l'or est en plein essor. Les petites mines ont produit 1,2 million d'onces d'or au cours des 7 premiers mois de l'année, soit plus que pour l'ensemble de l'année 2023, selon les données de l'autorité de régulation du secteur minier ghanéen. Quelque 70 à 80% des petites mines n'ont pas de licence. Le Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire a saisi 33 camions transportant environ 1100 tonnes de fèves de cacao de contrebande à la frontière avec la Guinée. Les détails de la saisie ont été confirmés par une source militaire, deux acheteurs et trois exportateurs. La contrebande de cacao a augmenté dans la région après les mauvaises récoltes au Ghana et en Côte d'Ivoire, les deux plus grands producteurs mondiaux. L'automne sera très chargé sur le front de la diplomatie environnementale. La COP 16 centrée sur la biodiversité se tiendra du 21 octobre au 1er novembre à Cali, en Colombie. La COP 29 sur le climat aura lieu 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Et la COP 16 sur la désertification est prévue à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Athlétisme, décès à 26 ans du Kenyan Kipyegon Bett, troisième des mondiaux 2017 aux 800 mètres.
Le Kenyan Kipyegon Bett, médaillé de bronze de 800 mètres aux mondiaux 2017 à Londres, est décédé dimanche à l'âge de 26 ans d'une insuffisance rénale et hépatique, a annoncé ce lundi sa famille. Privé des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et des Championnats du Monde de 2022, après avoir été reconnu coupable de dopage, Bett a fait une dépression et a commencé à boire beaucoup, a affirmé ce lundi à l'AFP sa sœur Purity Kirui. Champion du monde de moins de 20 ans en 2016 en Pologne, Bett était l'un des coureurs de demi-fond les plus prometteurs du Kenya.
Championnat d'Afrique des Nations Total Energy 2024, le tirage au sort aura lieu le mercredi 9 octobre 2024.
Le tournoi se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Avant la phase finale, deux tours de qualification seront organisés selon un système aller-retour. Le premier tour des qualifications se déroulera du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour est prévu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. Depuis sa création en 2009, le championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy sert de vitrine mettant en avant le talent exceptionnel et la qualité du football africain qui continue d'évoluer. La dernière édition du tournoi s'est tenue en Algérie, attirant des milliers de fans, des millions de téléspectateurs à travers le monde, ainsi qu'un fort engagement numérique en raison de la montée en popularité et de la qualité de l'événement.
Et enfin, NBA, LeBron et Bronny James sur un même parquet avec les LA Lakers, première.
LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, et son fils Bronny sur un même parquet avec les Lakers, c'est fait. Certes, il ne s'agit que d'un match de pré-saison, mais LeBron et fils ont joué ensemble dimanche, une première dans l'histoire de la Ligue. Le grand public était dans l'attente de cette association inédite depuis la draft de juin et la sélection de Bronny James en 55e position par la franchise californienne. Elle est devenue réalité au début du deuxième quart-temps de cette rencontre d'avant-saison disputée à Palm Springs, à presque 200 km à l'est de Los Angeles, contre les Phoenix Suns, le jour même du 20e anniversaire de Bronny.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, alerte au retour de la saison des pluies, une période d'angoisse pour les habitants des quartiers à risque de Libreville. Beaucoup de familles s'apprêtent ou vivent déjà les dégâts des premières crues. Problème, la ville manque d'un plan d'urbanisation. C'est l'une des raisons des constructions anarchiques, y compris sur les lits de rivière. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangdé.
Chaque année, avec le retour des grandes pluies, c'est l'incertitude des lendemains à la Sorbonne. Pour parer au pire, Junior et ses voisins ont mis en place une stratégie de gestion des risques d'inondation qui fonctionne plutôt bien dans ce quartier du 3e arrondissement de Libreville.
On ramasse même le gravier à la sortie là-bas, à la rentrée. Si l'eau amène, nous on ramasse, on vient stocker ça chez nous là. Si vous voyez chez nous ici, nous maintenant, quand même on peut dire qu'on est quand même un peu à l'aise. Un peu à l'aise parce qu'on a arrangé la route là jusqu'à la rentrée. Parce qu'avant, les enfants ne peuvent pas passer ici, sortir par ici. Même les gens du quartier, ce n'est pas facile.
Bien loin de là, l'angoisse de plusieurs familles, elles sont installées dans un secteur marécageux du sud de la ville. Avant même la période des crues, Justin, sa femme et leurs enfants ont déjà des pieds dans l'eau.
Voici ce qu'on vit, mais les enfants ont dit, voici moi, elle là.
Les moins résilients de ces terrains, autrefois forêts de mangroves, ont dû abandonner leur maison aujourd'hui cernée par les eaux de pluie.
Mais tous mes opérateurs sont partis, nous tous, il n'y a pas que moi seul, je passe beaucoup au quartier. Nous sommes 50 familles abandonnées à nous-mêmes. Voici mon frère qui est assis là. Tout ça derrière, c'est sur lui. Il n'y a plus personne là-bas. Pardon, on demande les aides.
Retour à la Sorbonne, un bidonville au cœur de Libreville. Pour Stéphanie qui y habite, la saison des pluies, c'est synonyme de cauchemar.
Il y a d'autres qui perdent des diplômes, il y a des enfants même qui meurent dans ces inondations-là. La Sorbonne n'est pas un quartier tracé, on n'a pas des endroits où on ne sait pas comment faire, mais on est obligé de vivre dans un quartier anarchique parce qu'il n'y a pas d'abord de plan pour ça. Donc on souffre, on ne sait pas comment faire avec ces inondations-là.
Les opérations d'assainissement dans les zones à risque sont à l'épreuve de l'incivisme des populations. Anissé est employé du service d'hygiène de la mairie de Libreville.
On commence là tous les jours. Après combien de minutes là, hier là, j'ai ramassé. Voilà. D'ici 15 heures là, vous allez voir tout ça là. Qui n'a fait qu'à faire son travail. La mairie aussi fait son travail, mais vraiment, je suis désolé. C'est l'incivisme de la population environnante.
Pour les spécialistes des questions climatiques, l'ampleur des calamités pendant la saison des pluies au Gabon rappelle l'urgence de renforcer les politiques publiques de prévention de catastrophes avant cette période de tous les dangers. Ismaël Obiangdé pour VOA Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ovoué FM à Libreville.
Au Togo, des activités génératrices de revenus sont initiées à l'endroit des femmes pour leur permettre une certaine autonomisation et faire reculer la pauvreté dans les milieux ruraux. Dans le village de Momé Katioé, dans le sud du pays, le projet Appui aux femmes transformatrices de noix de palmiste a transformé la vie de milliers de femmes productrices de l'huile rouge. Grâce à des équipements modernes de transformation de noix de palme, elles sont passées à une production plus aisée, bien loin des pénibles pratiques artisanales. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Ousso.
Dans la salle des machines, construite grâce au projet d'appui aux femmes transformatrices de noix de palmiste, Dame Dojome Ajovi, productrice de l'huile rouge à Momé Katioé, montre fièrement les matériels qui permettent aux femmes de sa localité de ne plus connaître des difficultés dans leur travail.
La production de l'huile de palme est l'activité principale de la majorité des femmes de notre localité. Mais ce n'était pas simple. Vous imaginez une seule personne traitant un tonneau de noix de palme. Cela prend plusieurs jours. Il faut piler au mortier ou y aller avec les pieds. Parfois, nous faisons appel à nos enfants pour nous aider. C'était pénible.
Désormais, c'est un lointain souvenir pour Dojome Ajovi et les autres femmes productrices avec les matériels modernes comme les malaxeurs, extracteurs d'huile rouge motorisée, le cuiseur de noix de palme, le concasseur de noix palmiste électrique et autres presse huile palmiste pistes électriques qui leur ont été fournies.
Nous avons été formés pour la maîtrise des machines et nous travaillons sans problème. Avec ces équipements, le travail est plus facile et très rentable. Une seule journée suffit pour sortir des dizaines de bidons d'huile de 25 litres. Le projet a considérablement amélioré nos conditions de vie et de travail.
Organisé en coopérative avec un conseil d'administration et ayant goûté aux bienfaits des réalisations du projet dont l'électrification du village, les femmes productrices d'huile de Mome Kativoué en veulent plus pour la plénitude de leur bonheur.
Le plus gros problème que nous avons ici, c'est la disponibilité de l'eau. Nous voulons que le projet nous aide à avoir un forage. Ça va nous faciliter la tâche.
Comme nous produisons déjà de l'huile, moi je voudrais qu'on nous forme à la fabrication du savon. Ça va nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires.
Assimiou Rahim Alimi, le coordonnateur national du projet, salue l'implication exemplaire des femmes de la communauté de Mome Kativoué et affiche sa volonté d'en faire plus pour elle.
Ici à Mome Kativoué, on sent de la volonté, on sent l'engagement et vous voyez même toutes les ambitions qui sont formulées. Pour la communauté de Mome Kativoué, c'est un modèle pour nous et je crois que les doléances ou les besoins qu'ils expriment ne peuvent pas constituer des problèmes, je crois qu'on les accompagnerait.
Selon Assimiou Rahim Alimi, la gestion du projet par les femmes de Mome Kativoué doit être prise comme un exemple pour les autres communautés. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
L'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre l'an dernier a déclenché un conflit qui est devenu le plus meurtrier de l'histoire récente pour les journalistes et les professionnels des médias. Au moins 116 journalistes, presque tous palestiniens, ont été tués. La VOA s'est entretenue avec des reporters qui ont couvert ce conflit et des analystes des médias sur les raisons pour lesquelles il est essentiel d'avoir des journalistes sur le terrain qui peuvent travailler librement. C'est un sujet de Christina Cecedo-Smith et Liam Scott. Récit Antoine-Roger Bolamba.
L'assaut du Hamas du 7 octobre a fait au moins 1200 morts en Israël et 251 personnes ont été enlevées. Cette attaque a déclenché une guerre qui se poursuit encore aujourd'hui. Jody Ginsberg est directrice générale du Comité pour la protection des journalistes.
Plus de journalistes ont été tués au cours des 10 premières semaines de la guerre qu'il n'y en a jamais eu dans un seul pays au cours d'une année entière.
Selon les comités de protection des journalistes, le bilan au 1er octobre est de 111 journalistes palestiniens, 2 israéliens et 3 journalistes libanais. En outre, 35 personnes ont été blessées, 2 sont portées disparues et 54 ont été arrêtées. John Daniszewski est le vice-président de la société de presse et rédacteur en chef pour les normes.
Il y a aussi de très grands défis en termes d'accès à l'information pour les journalistes. Et d'après mon expérience, il s'agit de l'information la plus polarisante que nous ayons jamais eue à traiter au cours de ma longue carrière de journaliste.
Tarek Ajaj est correspondant à Gaza pour Mondo Est, une publication en ligne qui couvre les territoires palestiniens, Israël et la politique américaine. Il a vécu toute sa vie dans la ville de Gaza.
Chaque fois que je marchais sous les drones et les avions de guerre israéliens, j'avais l'impression qu'à chaque seconde, ils pouvaient me bombarder, me tourner autour, parce que je sais qu'ils ciblent les journalistes et je sais qu'ils ne veulent pas que quoi que ce soit en provenance de Gaza parvienne à la population.
Fondé en tant que site d'information progressiste, Mondo Ouest a fait l'objet de critiques pour ce que certains considèrent comme des opinions anti-israéliennes. Le gouvernement israélien a nié à plusieurs reprises qu'il s'en prenait aux journalistes. Mais le CPJ et d'autres organisations affirment que les forces israéliennes devraient être tenues responsables du nombre élevé de morts dans les médias. Presque tous les journalistes tués sont des Palestiniens. Jody Ginsberg du CPJ.
Ils sont aussi les seuls à pouvoir rendre compte de la situation à Gaza, car aucun journaliste étranger n'a été autorisé à y pénétrer. Ils portent donc tout le poids de la responsabilité de rendre compte de l'impact de la guerre sur Gaza.
Les blessures et la mort ne sont pas les seuls risques auxquels les journalistes sont confrontés.
Certains des dangers ne sont pas seulement physiques, mais aussi liés au cyberharcèlement, au harcèlement et à l'intimidation des journalistes.
Les Nations Unies ont condamné les attaques contre les journalistes, indiquant qu'il y avait des rapports inquiétants d'attaques contre des travailleurs des médias, malgré le fait qu'ils soient clairement identifiés. En réponse à un rapport de l'ONU, l'armée israélienne a déclaré qu'elle ne tire pas délibérément sur les civils, y compris les journalistes. Ajaj se souvient de tous les articles qu'il a couverts depuis le 7 octobre. Certains, dit-il, ont été dévastateurs à écrire, mais il sait qu'il doit continuer à rendre compte de ce qui se passe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À environ un mois de l'élection présidentielle américaine, les candidats démocrates et républicains ont une semaine chargée. L'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris vont continuer à rallier leurs partisans dans des états pivots, alors que l'on craint que la rhétorique ne devienne de plus en plus incendiaire. Veronica Balderas Iglesias de la VOA nous en parle. Récit Michel Joseph.
Le candidat républicain Donald Trump s'est montré provocateur samedi en s'adressant à ses partisans lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. C'est dans cette même région qu'un tireur l'a blessé à l'oreille en juillet dernier pendant un meeting de campagne. Il a souligné que cet incident, le premier de deux tentatives d'assassinat, ne faisait que renforcer sa détermination à remporter l'élection présidentielle.
Au cours des 8 dernières années, ceux qui veulent nous empêcher de réaliser cet avenir m'ont calomnié, mis en accusation, tenté de m'exclure du scrutin, et qui sait, peut-être même essayer de me tuer.
Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a été invité à commenter les remarques de Trump et celles similaires faites au cours du week-end par le fils de l'ancien président, Eric.
Je ne pense pas qu'ils disent que le Parti démocrate a tenté un attentat. Je pense qu'ils font allusion à ce que nous avons tous dit. Ils doivent revoir leur rhétorique à la baisse.
De son côté, la candidate démocrate Kamala Harris jongle entre ses fonctions de vice-présidente et son programme de campagne. Samedi, elle s'est rendue en Caroline du Nord pour promettre un soutien fédéral aux communautés touchées par l'ouragan Helene. La veille, Harris avait fait le point sur l'état de la course à la présidence.
La course sera très serrée jusqu'à la fin.
Le député démocrate Adam Schiff a été interrogé dimanche dans l'émission Meet the Press de la chaîne NBC sur sa conviction que Harris et les démocrates peuvent remporter une victoire écrasante en novembre.
Compte tenu de la division du pays, la victoire pourrait être écrasante avec 100 000 ou 80 000 voix d'avance dans les états clés du champ de bataille. Je pense donc que nous sommes bien placés pour gagner, mais c'est encore très serré.
La vice-présidente sera occupée par une série d'engagements médiatiques cette semaine, surtout des apparitions dans des talk-shows populaires. Elle devrait aussi faire campagne dans le Nevada jeudi et en Arizona vendredi. Le site web de la campagne Trump indique que l'ancien président se rendra en Pennsylvanie mercredi pour prononcer un discours à Scranton et tenir un meeting le même jour dans la ville de Reading.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezero. À la mise en onde, Joselle Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM,
101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.